car les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de la bonne santé.
Tu cherches
un un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les autres? Non.
Mais que diable allait-il faire dans cette galère?
Vous avez raison, mais hâtez-vous!
Y avait-il quoi d'autre problème?
Cela est vrai, mais faites promptement, maudite galère!
Ah, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'émission Scène de vie pour notre troisième mensuel. Aujourd'hui, dans notre émission, nous parlerons de cirque et du nouveau cirque, notamment d'un spectacle Mignon Palace. Et je vous présenterai un personnage assez incroyable qui sera avec nous par téléphone, Gilles Defacq. Et puis, on s'interrogera. J'avais envie de vous parler aussi du rapport du spectacle vivant et de l'image, et notamment de cinéma. Et puis, on clôturera l'émission autour des spectacles à venir sur un petit son de Noël. Et bien sûr,
le tout,
j'y sais,
entrecoupé de musique.
De musique, une programmation toujours en lien avec nos sujets, mais pas que.
Et puis, pour commencer donc cette émission Scène de vie, vie de scène, bien entendu, on vous propose, comme d'habitude, la petite ambiance.
La petite ambiance sonore.
Thank you.
Et voilà, l'ouverture traditionnelle de l'émission avec une ambiance. Alors Nathalie, où étions-nous dans cette ambiance? On a l'impression d'être dans la ville.
On a l'impression d'être dans la ville, dans la rue. Eh bien, pas du tout. On était dans une salle de spectacle. Je suis allée voir un cirque, le cirque Éloise. Et là, c'était l'ambiance en salle au moment de l'entrée du public. Et on était accueillis par les sons de la ville, une magnifique bande sonore au sein même du Cirque Théâtre d'Elbeuf. Et c'était un spectacle qui s'appelait Idée et qui était basé sur les cultures urbaines et qui travaillait un cirque, un nouveau cirque à partir des talents qui peuvent exister au niveau des arts urbains, des arts de la rue.
C'est-à-dire que le public rentre dans une ambiance dès le début, c'est-à-dire que c'est le spectacle commence déjà à l'entrée du public.
Exactement, c'est ça. C'est pas une entrée où on arrive, il y a aucun son, si ce n'est le son des gens qui parlent entre eux. Et là, c'était une bande son assez qui prenait vraiment bien en mesure la dimension, l'espace. Hein. Le cirque Théâtre d'Elbeuf, c'est comme son nom l'indique, c'est vraiment une piste de cirque. Hein. On est dans une espèce de demi-arène. Et voilà, on était enveloppé par ce son urbain à l'intérieur de ce lieu. Donc le spectacle commençait dès l'entrée en salle.
Alors, le cirque Éloise est ce qu'on appelle le nouveau cirque. Allons traiter un petit peu de ça en début, pas un petit peu, nous allons traiter de ça en début d'émission, on
ça
peut le dire.
Notre premier sujet. Oui.
Donc, voilà.
Oui, oui.
Et tu parlais du lieu du cirque d'Elbeuf. Oui. Est-il sous chapiteau? C'est toujours l'image que nous avons quand on parle de cirque en général, le fameux chapiteau rouge et jaune même, ça fait partie d'une espèce de code du cirque.
Alors, il y a cirque, je dirais maintenant. on parle de plus en plus du nouveau cirque. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour répondre à ta question sur le cirque théâtre d'Elbeuf, c'est un cirque en dur, vraiment. Un cirque théâtre, donc c'est une structure dure, pérenne, non démontable, dans lequel on présentait à l'origine des spectacles, des numéros de cirque, un peu comme le cirque d'hiver, ou voilà. Donc c'était le moyen de présenter à l'origine des numéros, même pendant l'hiver, dans une salle un petit peu plus confortable. Voilà, et ça en est devenu une salle, on peut dire maintenant, de spectacle, littéralement parlant, dédié beaucoup plus aux arts du cirque.
Alors le cirque traditionnel, on a une idée tous assez claire de ce que ça peut être.
Voilà, même des souvenirs d'enfance.
Des souvenirs d'enfance autour de ça. Également. Ce nouveau cirque qui est apparu, alors on dit plus ou moins autour des années 70, enfin voilà. Une nouvelle vague de fonctionnement, tout simplement, était en réaction. Alors c'est vrai qu'on en a pas mal discuté avant, avant de faire l'émission pour le coup, qui est venu un petit peu en cassure avec la tradition. Tout à l'heure, quand on préparait cette émission, tu me donnais quelques points très très précis, enfin des critères, quasiment.
Enfin, comment on peut définir? Voilà, qu'est-ce qui définit en gros le nouveau cirque? Alors l'ancien cirque, on va dire le cirque plus traditionnel, maintenant comme on l'appelle populaire, eh bien c'était les numéros, la performance, des numéros plus extraordinaires les uns que les autres. C'était la présence des animaux. Fortement.
Avec notamment les animaux sauvages.
Les animaux sauvages, extraordinaires, que nous n'avions pas l'habitude de voir chez nous, dans nos pays. Donc c'était vraiment créer de l'exceptionnel autour de formes complètement inattendues. Après, il y a eu des formes aussi cirque cabaret, avec des numéros de le plus grand homme du monde. Voilà, on était vraiment aussi dans des numéros d'exception. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le nouveau cirque, on est moins dans la performance et moins dans le spectaculaire, moins dans l'enchaînement des numéros, mais on va être plutôt dans le propos. On va essayer d'avoir quelque chose à dire et un sens vraiment à un spectacle. un spectacle de A à Z.
Voilà, avec une histoire qui se tient du début à la fin, qu'il voilà. n'y avait pas dans le cirque traditionnel.
Non. Cirque traditionnel, c'était maintenant vous avez les clowns, puis après les trapézistes, puis le dompteur, puis bon voilà.
Il y avait le danger aussi qui tenait le cirque traditionnel, qu'on ressent pas forcément maintenant dans le cirque le plus
oui.
moderne.
Eh ben c'est vraiment tout l'équilibre. Enfin, ça dépend des spectacles qu'on va voir. Certaines compagnies de cirque théâtre jouent encore sur cette notion de performance et va faire appel à des artistes avec un talent assez incroyable. C'est pour ça qu'on retrouve aussi différents autres genres artistiques. Enfin, autres performeurs. Voilà, on va passer maintenant à des bikers, à des rollers. On va avoir la voltigeuse qui n'est plus avec son trapèze ou sa corde, mais dans son drap. On va, voilà, on va vraiment être ouvert aussi à ce qui fait la performance, l'exception, mais en dehors des agrès traditionnels.
Dans la peinture éventuellement ou dans la réalisation autre que ce dont on avait l'habitude.
Ben voilà, on va faire appel à des autres univers artistiques. Que ça soit la danse, la vidéo, les arts plastiques, la musique, l'architecture aussi. Parce que quand on a un gros volume, une piste, on peut jouer de ça, on peut jouer de cet espace. Donc ça donne des choses très intéressantes. Disons qu'on est plus dans une vision artistique que dans du spectaculaire. Voilà, l'idée majeure, elle est là.
Et puis aussi dans le mélange de disciplines en même temps, c'est-à-dire que sur une scène de cirque moderne, plus contemporain, il va pouvoir se passer plusieurs choses, comme justement la performance n'est plus au centre de la préoccupation, on est plus proche du théâtre, voilà. Il se passe différentes choses sur scène et... à chacun après d'attirer l'œil où il le souhaite.
Voilà, exactement. On propose évidemment un spectacle, comme on dit, avec plus de liens entre les événements ou les performances.
Alors dans les cirques modernes, il y a quelques noms qui sont réputés maintenant.
Oui, qui sont réputés, qui sortent du lot. Oui,
vous entendez
sûr.
Notamment derrière le petit tapis que nous utilisons, c'est du Cirque du Soleil. Oui, voilà.
Bien sûr, donc là, vraiment,
c'est un extrait. Voilà.
Un extrait. Mais on connaît également le Cirque Plume, voilà, qui joue vraiment de la poésie, de l'image par rapport à ses spectacles. Le Cirque Éloise, dont nous avons eu le son là, en début d'émission, qui est vraiment une compagnie majeure canadienne, qui est vraiment renommée, connue à travers le monde également. Et puis ça a été surtout ce qui avait marqué l'entrée du nouveau cirque comme une reconnaissance aussi de ce nouvel art, de la scène. C'était le cri du caméléon qui avait lieu en 95 au Festival d'Avignon, ça je m'en souviens. Et c'était vraiment l'événement et la chose nouvelle qui a permis de lancer aussi tout un mouvement du nouveau cirque. Mais on a aussi, après, dans les différents pays, on a par exemple le Chouf au Chouf avec la compagnie de Tanger. C'est un art qui se développe vraiment par-delà, enfin dans différents pays, vraiment.
Je te propose pour poursuivre, c'est d'écouter la réaction d'une spectatrice que tu as rencontrée.
Oui, au moment justement du spectacle du Cirque Héloïse. Donc
Et nous glisserons directement sur un extrait de la musique du Cirque d'Héloïse.
À tout à l'heure.
Alors moi personnellement non, c'est la première fois que je viens ici. On a été voir le Cirque Plume sous chapiteau il n'y a pas longtemps. Oui. Et voilà, c'est la première fois que je viens ici.
Et vous êtes amatrice de cirque ou
Tout à fait,
oui.
De cirque. Maintenant, j'ai jamais eu l'occasion de venir ici, parce qu'on est à la base de Bray.
Oui, allez-y. Lila. Donc c'est le cirque qui vous fait venir découvrir ce nouveau lieu.
Des amis qui travaillent ici aussi, mais autrement oui, le cirque complètement.
D'accord. Et pourquoi le cirque ?
Pourquoi le cirque ? Parce que moi j'ai fait pas mal de cirque aussi avant, d'acro, de tissu aérien, tout ça aussi. Donc j'ai des connaissances qui font que j'ai été sensibilisée à ça très vite. Et voilà, et puis le nouveau cirque m'attire énormément. Et le cirque Éloise, c'est la première fois que j'ai l'occasion de le voir et ça fait longtemps que j'attends de voir ça. Voilà.
Et quand vous parlez de nouveau cirque, vous y mettez quoi, le nouveau cirque ?
La mise en scène qui...
Thank you.
La mise en scène, qui est beaucoup plus travaillée que dans le cirque traditionnel, toute la scénographie, tout le travail de recherche aussi sur les histoires, sur, enfin bon, tout ça, ça englobe la mise en scène et la scéno, donc voilà.
C'est un mélange de genres aussi.
Oui, c'est ça.
Plus,
tout à fait. Enfin, après, ça dépend de ce que choisissent les scénographes en général. Maintenant, comme le cirque Plume, ce qu'on a vu la dernière fois, c'était un vrai show, un vrai où il y a autant dans la peinture que dans la danse, que dans le chant, que dans. Enfin, c'est riche, quoi. Donc, il y a un mélange de tout maintenant dans le cirque nouveau cirque.
Là, avec le cirque éloise, on est plus aussi proche des cultures urbaines. Enfin, c'est
ce qu'ils expliquent aussi un peu là-dedans. Moi, là, je ne savais pas jusque-là. Mais voilà, je viens de lire le petit résumé qui explique tout ça.
Bien, bah merci.
De rien. Bon spectacle.
Bon spectacle.
Maintenant, j'avais envie de vous présenter, de vous faire rencontrer un personnage, vraiment un personnage, la personne de Gilles Defacq qui est avec nous au téléphone. Bonjour Gilles, vous m'entendez?
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors voilà, pour vous présenter en quelques mots, vous êtes clown, comédien,
oui.
Auteur, directeur du Prato à Lille.
Oui, c'est ça.
Vous êtes un personnage un peu agitateur de la culture lilloise là-bas. Et vous créez votre monde qui est fait d'apprentis clowns, de grands artistes. J'ai l'impression que vous avez une énergie vraiment très communicative et puis que vous ne lâchez pas le morceau dans votre lignée, dans votre recherche.
Oui.
Est-ce que je me trompe en disant ça?
Non, vous ne vous trompez pas du tout. Non, il y a une opiniâtreté vraiment et un enthousiasme pour la clownerie et la déjanterie générale.
Oui. Et voilà, je voulais je vous inviter aujourd'hui, ce midi, à notre émission pour que vous nous parliez de votre spectacle qui va être accueilli à Louviers au Théâtre du Grand Forum, Mignon Palace.
Oui.
Alors, Mignon Palace, c'est toute une histoire.
Hein. C'est ça.
Déjà, c'est un nom.
Voilà, le nom de Mignon Palace, c'était l'enseigne, le nom de l'endroit où je suis né, où j'ai vécu étant gosse, dans la baie de Somme, à Friville-Escarbotin. C'était en fait une salle de cinéma, bal, catch, théâtre. Enfin, c'était un lieu de vie, de fête en permanence au milieu des usines de serrurerie là-bas.
Un lieu donc populaire également, ce qu'on pourrait dire,
oui, complètement populaire. C'était, je sais pas, la salle, combien de spectateurs il y avait, peut-être 500-600, et la salle était régulièrement transformée. On passait du cinéma au catch, où après on remettait les chaises, les fauteuils, etc. Et ensuite il y avait le bal. Il y avait comme ça toute une activité populaire. C'était le lieu de vie de tous les gens qui étaient là, et c'était aussi quelque chose qui m'a terriblement marqué, et puis j'essaie de le faire partager aujourd'hui aux autres, et comme si le Mignon Palace renaissait inlassablement.
Je me doute. Évidemment, ça ne peut être que marquant dans son enfance quand on vit avec ça.
Oui, oui. Puis ça laisse en fait, c'est absolument de là que me vient l'énergie dont vous parliez tout à l'heure. Et à force de bassiner les autres autour de moi avec ce Mignon Palace, j'ai désiré un petit peu lui rendre un hommage très gai, en fait, avec toute une équipe. Avec un orchestre gitan, avec des jeunes de cirque et tout, comme si on, inlassablement, où on arrive quelque part, quand on arrive à Louviers par exemple, eh bien on décide que c'est là que le Mignon Palace arrive à nouveau, comme un grand voyage à travers le temps.
Oui, donc c'est à chaque fois comme un petit enjeu aussi que de s'emparer d'une autre salle pour lui faire revivre cette ambiance là.
C'est ça, d'un
lieu à un autre, c'est différent déjà, la salle en elle-même est différente.
Voilà, et à chaque fois, en fait, on s'est beaucoup amusé avec les comédiens, ils ont été très à l'écoute. C'est comme si c'était ma maman qui accueillait les gens, c'est comme si mon papa était là. Et on dit qu'on va inaugurer le cinéma, et je leur ai raconté un petit peu tous les stress, les peurs de l'enfance, de mes parents, tout ça. Puis on lance une sorte de revue de musical finalement, qui est prête à la dernière minute. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce phénomène très très magique, un peu d'une installation, de redécouverte du lieu. D'autant plus qu'il y a du trapèze, il y a du BMX, il y a des acrobaties. Donc c'est vraiment, pour le coup, vraiment une vraie installation.
Et pour le coup aussi, je tiens à préciser, pour le Théâtre du Grand Forum, je crois que c'est la première fois qu'on va faire que la salle va être vraiment proposée du cirque, cabaret, voilà, qu'on va avoir des agrès installés à ce niveau-là. Donc c'est aussi, quelque part, une première aussi pour la salle.
Oui, il y a une couleur cirque avec toutes sortes de disciplines, comme je disais. Il y a la roue allemande aussi. Et en même temps, avec une création musicale d'un merveilleux orchestre de Lille, qui est l'orchestre de Arnaud Van Lanker, le Tirlen, qui joue en direct comme ça et qui aussi donne l'énergie aux acteurs selon ce qui se passe. Il y a une part d'improvisation également dans ce spectacle où ils sont 13 sur scène. Mais c'est une grosse machine et je suis ravi d'aller chez vous.
Et le spectacle est structuré ou il y a une espèce de désordre, de spontanéité?
Non, il est complètement structuré, disons. C'est vrai, comme une revue, je disais, c'est un peu comme des tableaux finalement. Une sorte de tableau qui avance vu par l'œil de la petite fille ou du petit garçon qui traverse tout ça. Et il y a aussi un petit peu finalement comme si on entrait à chaque fois dans un film différent au fond. C'est un petit peu ça. On entre à un moment donné dans un film de vampire, on entre dans une séquence de catch, on entre dans un autre moment où là c'est le bal, etc. Et on avance comme ça jusqu'à la fin du spectacle, ou alors la fermeture du Mignon Palace pour sourire, mais c'est un peu vrai, puisque finalement ces lieux-là ont fermé souvent au moment de l'arrivée de la télévision.
Voilà.
Ces lieux des années 55, par là, au fond.
Et question, qu'est-ce qu'on y projetait comme film dans ce Mignon Palace?
C'était assez magique, puisque finalement, à l'époque, les grandes maisons américaines ou françaises, mais que ce soit la Paramount ou tout ça, déléguaient des représentants qui venaient proposer des films. Il y avait aussi bien du Hitchcock, du Jerry Lewis, etc. Il y avait à la fois les grands, grands films, les Peplums, le Ben-Hur et tout, et puis aussi de toutes sortes de films. Il y avait quand j'étais gosse, il fallait prendre un film connu, puis après autour, il y avait ce qu'on appelait des navets.
Et c'était vraiment que des navets ou il y avait des choses extraordinaires?
Nous, on ne se rendait pas bien compte, puisque finalement, il n'y avait pas du tout la télévision ni rien. Donc, dans le fond, nous, la magie, elle opérait tout le temps, au fond. Et tout ça aussi, en plus, dans une ambiance où c'était pas la crise, c'était le moment où les usines tournaient à fond, les usines de serrurerie et de robinetterie de la baie de Somme. Donc tout ça était, on était au milieu des ouvriers, tout ce qui, donc c'était la distraction principale en fait. Au fond aujourd'hui, si je ne sais pas si on peut comparer d'ailleurs, parce que c'est pas du tout la même chose. Alors, en Italie, on aurait dit les maisons du peuple, quoi, Casa del Popolo.
Bon, aujourd'hui, c'est vrai que de retrouver ces lieux-là, avec ces ambiances-là, je me doute, c'était des lieux aussi propices vraiment à et prétexte à la rencontre aussi avec dans un autre contexte avec les uns et les autres.
Les uns et les autres, les rencontres, c'est là que se nouaient aussi les rencontres amoureuses,
mais
les futurs mariages. Je me souviens l'année dernière, on jouait à Verdun. Alors Mignon Palace, c'est comique aussi d'emmener Mignon Palace ailleurs comme ça. Il y a un couple qui est venu me trouver, des petits vieux, ils m'ont dit qu'ils étaient de Friville-Escarbotin et ils m'ont dit il faudra surtout dire au public qu'on s'est rencontrés là. Parce qu'en fait, il y avait le bal, il y avait le photographe qui prenait les photos, bien sûr, c'était l'endroit des rencontres. Au fond, l'endroit de la fête populaire et finalement d'une culture populaire aussi.
Oui.
C'est un petit peu ce clin d'œil-là que je veux faire et qu'on partage avec l'équipe des acteurs, des circassiens qui sont dans le spectacle. C'est aussi ce désir d'une culture qui soit une culture de la rencontre, qui soit une culture en direct. C'est pour ça que j'adore ce jeune cirque contemporain.
Oui, on est vraiment quelque chose d'immédiat par rapport au public, c'est ce que vous cherchez.
Voilà, et très sensuel, avec aussi, j'oublie, parce qu'il y a toutes les disciplines, avec de la chanson, bien sûr, il y a aussi une Stéphanie Petit, qui est ma maman, qui est une chanteuse. Enfin, au fond, c'est ressentir un petit peu, donner le goût de cette frénésie, mais qui n'est pas perdue pour autant. Hein, d'ailleurs, on doit le vivre dans les lieux de culture aujourd'hui.
On devrait. Et dans certains lieux de culture, ça se vit parfois aussi, d'avoir ces retrouvailles.
Bien sûr, bien sûr.
Bien, je vous remercie beaucoup, Gilles Defacq, pour cette présentation.
Voilà.
On a très hâte de vous retrouver à Louviers, venir vous voir à Louviers la semaine prochaine, le 8 et le 9décembre.
Absolument.
Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Et tout de suite, Nathalie, je te propose qu'on écoute un extrait de la bande-son de justement l'orchestre
Tirlène. Et bien voilà, après ce cette petite musique de l'Europe de l'Est, de l'orchestre des Tirelaines, que vous retrouverez dans le spectacle de Mignon Palace. Ah, petite anecdote quand même sur Tirelaines. J'avais envie de préciser.
L'orchestre des Tirelaines. Prenons le temps.
On prend le temps puisque cette émission prend son temps. L'orchestre des Tirelaines. Les Tirelaines, c'était le sobriquet qu'on donnait au Moyen-Âge pour les voleurs parce qu'ils tiraient le bas de laine. Ah, oh, j'ai appris ça en regardant la bio de cet orchestre-là. Voilà. Donc, non, mais pas de souci hein, pour le 8 et le 9 à Louvier. Hein. Ils sont réglo sur scène. Alors, maintenant.
Alors, en plus, oui, c'est vrai que tu l'évoquais durant l'échange téléphonique. C'est qu'il y a toute une installation aussi qui doit avoir lieu. Un petit peu le côté envers du décor, ça m'intéresse toujours. Oui. C'est-à-dire que le Théâtre Forum de Louviers n'est pas conçu forcément pour avoir voilà, de la suspension, des choses qui vont dans tous les sens.
Voilà, c'est vrai que c'est, comme je le disais dans l'interview, c'est la première fois qu'on va, il me semble, accueillir un spectacle avec des éléments du cirque, des agrès posés. Voilà, donc en même temps, au Théâtre du Grand Forum, il y a un système, il y a un grille technique assez incroyable avec un système de perches et surtout le grill. Je crois qu'il va y avoir des agrès qui vont être fixés au grille technique même. Alors le grille technique, c'est ce qui accroche, c'est l'architecture pour l'accrochage vraiment du matériel technique, projecteur, perche dans le spectacle vivant.
Tout ce que le public ne voit pas.
Sauf quand il visite le Théâtre du Grand Forum. Il peut le faire, hein, ça se fait, je sais. Alors, donc oui, là on verra, je pense que ça va être très très bien ce spectacle à Louviers, à Mignon Palace.
J'aime ses respirations.
Et tu as bien raison.
Donc, nous souhaitions également vous parler un petit peu de l'image et du spectacle vivant, la relation entre le cinéma, ce qu'on peut appeler art vivant, ce qu'on peut trouver dans le cinéma.
Oui.
Parce que c'est pas que le box-office, le fameux box-office qui est toujours en avant dans les salles, bien trop souvent.
Bien trop souvent, c'est vrai. On s'interrogeait un peu sur la pratique de spectateur, là, en discutant. Et on se disait, c'est vrai, pour les personnes intéressées par d'autres formes, d'autres histoires, où aller, comment faire? Parce qu'il existe un cinéma qu'on appelle... Alors, il y a le cinéma indépendant, qui donc, c'est une vision, là encore, artistique, hein, un propos, travail sur une image, une lumière. Enfin, voilà, c'est un peu la vision cathartique du cinéma. Et la force de l'image sur une histoire, un propos. Et,
une force qui peut en plus atteindre ce qu'on peut appeler une espèce de perfection, dans le sens où elle est enregistrée, préparée. Ce qui est différent avec le spectacle vivant, qui est en un tour, qui est en une fois.
Ah oui,
quand on va voir un spectacle vivant, on peut y aller plusieurs fois. Voilà, on peut y aller plusieurs fois sans jamais avoir l'impression d'avoir vu tout à fait la même chose.
Alors que le cinéma, eh bien, il est fixé sur la pellicule. Le travail, il se fait en amont.
Alors, peut-être qu'il peut justement permettre aussi d'atteindre ce qu'on peut appeler, pas une perfection, mais quasiment par rapport au metteur en scène.
Disons que oui, pour le réalisateur, c'est à ce moment-là. Enfin, on n'est pas du tout dans les mêmes logiques aussi de construction d'un projet, d'un spectacle et d'un film. Un film, il y a une post-production, une production, c'est extrêmement calibré. Les temps de tournage sont limités par le budget qui est imparti. Donc, c'est extrêmement complexe. Faire un film, c'est extrêmement complexe et c'est ce que disent beaucoup de réalisateurs. C'est vraiment le parcours du combattant incroyable quand un film peut sortir. Et bon, bien sûr, alors ça, en dehors des grandes productions de box-office, là, je parle vraiment quand on est dans un cinéma de recherche et un cinéma indépendant. Trouver l'argent, trouver les producteurs... pouvoir monter son film. Évidemment, on a écrit le scénario bien avant. C'est vraiment un périple. Vraiment un périple. Mais qui donne après l'amplitude au réalisateur pour créer voilà, son œuvre qui va être fixée. C'est clair.
Et alors, le périple s'arrête pas à la production parce que il continue aussi sur la diffusion et c'est bien là où est le problème.
Et oui, alors, enfin, dans, oui, oui, c'est vrai, puisque dans la diffusion, non seulement quand un film est sorti, il y a une première bobine, il faut qu'il trouve aussi un diffuseur et donc pour pouvoir faire des copies et être diffusé dans des réseaux, des salles. Et là, oui, c'est assez complexe. Déjà, il faut que la production trouve son diffuseur. Et puis après, les salles qui puissent accueillir les copies. Et c'est vrai, quand on est spectateur, entre autres, un peu ici, dans l'heure, quand on va aller voir un...
Oui, parce que sur Paris, ça pose très peu de problèmes d'aller voir du film indépendant ou d'arrêt d'essai. Ça pose moins de problèmes.
C'est vrai que, bon, il y a des réseaux. Il y a des réseaux de cinéma qui existent. On a les Utopias, le réseau des Utopias en France, qui est quand même un parti à la diffusion d'un cinéma autre, un cinéma indépendant. Et puis après, c'est vrai qu'il faut... Il y a plusieurs salles de cinéma aussi sur Paris, dans les grandes villes majoritairement, où il y a plus de monde et d'amplitude donc à la diffusion. Mais c'est vrai, quand on est en province, on a un peu de mal.
Et dans l'heure, plus particulièrement.
C'est vrai qu'il y a eu une culture quand même cinéma dans le département de l'Eure, avant avec le Ciné Zénith, qui était tenu par un indépendant, donc qui permettait, qui avait aussi sa vision du cinéma et qui a beaucoup œuvré pour une autre culture cinématographique. C'est vrai qu'on disait qu'Évreux est une ville cinéphile, mais parce qu'il y a eu toute une histoire qui sont liées à des hommes, à des volontés, que d'apporter une vraie culture cinématographique. Et il existe, il y a vraiment un public demandeur de cela. Vraiment. Alors du coup, on a quelques petites salles. On a le réseau du Ciné Plus le mardi après-midi, le mardi soir au Ciné Pâté en collaboration avec la scène nationale. Et puis il y a des petites salles, je pense on a Gisors par exemple, le jour de fête.
Le jour de fête, exactement. Ces petites salles, voilà, qu'on souhaitait mettre le coup par rapport au travail qu'ils font dans ces salles-là de mise en avant, de recherche même, parce qu'au bout d'un moment c'est un travail de recherche réellement pour proposer quelque chose d'intéressant au public.
Oui, et puis pour eux c'est tout un équilibre. Ils vont jouer, je pense, entre une programmation, quand même assez commerciale pour continuer à vivre, mais aux côtés de laquelle ils vont pouvoir proposer des films un petit peu plus indépendants et qu'un public recherche aussi, attend. Donc voilà, on avait listé le jour de fête à Gisors qui faisait ce travail-là.
Le Trianon de Verneuil.
Le Trianon de Verneuil. Et puis, mine de rien, le cinéma Le Viking au Neubourg aussi a une programmation un petit peu... on va dire quand on veut voir un film qui est passé à peine une petite semaine à Évreux, on peut le retrouver dans cette salle-là, je pense, Beautiful, Illégal ou d'autres films encore.
Et finalement, avec des petits budgets, parce que ce sont des cinémas de petits budgets...
Des petits budgets soutenus par les communes en principe, généralement, c'est ça.
Et finalement, avec du petit budget, c'est des cinémas qui arrivent quand même à trouver une programmation alternative à la grande distribution, quoi.
Oui, voilà, qui arrivent encore à satisfaire un public large aussi, et puis à penser à un autre. Bon, en moindre proportion, puisque c'est en général il n'y a qu'une salle, et donc il y a peut-être 2-3 diffs du film. Mais ça permet à proximité de pouvoir revoir des films ou voir des films qu'on a loupés ou on n'a pas pu voir.
Et ça tient aussi à la passion de ces personnes qui programment dans ces petites salles.
Oui, c'est des hommes derrière tout ça, c'est sûr. Et c'est important.
Pour rester dans l'ambiance cinéma, on proposait une pause musicale adaptée.
Adapté avec Henri Mancini, qui est un des grands auteurs-compositeurs de musique de film. On lui doit notamment La Panthère Rose, les films avec Audrey Hepburn, Breakfast in Tiffany ou Charade. Voilà, donc là, on vous a choisi un morceau de A Shot in the Dark.
Et vous retrouverez l'inspecteur Clouseau, bien entendu, dans ce thème-là.
Voilà.
C'est un thème hyper connu, pourrait-on dire. Enfin, ça parle à tout le monde, forcément.
Ça parle à tout le monde, oui.
Henri Mancini. Henri Mancini. Oh, bah, on va le renommer, hein, ce Mancini.
Tellement connu.
Voilà. On voulait juste, avant de passer sur ce qui est programmé justement en termes de cinéma, saluer des initiatives comme il y a eu une quinzaine de jours autour du Festival du film d'éducation qui était accueilli par le Ciné-Pâté. Alors c'était une production extérieure, les CMEA notamment, qui n'est pas une production, je dirais, dont c'est le métier, hein, mais ils se positionnent plutôt sur le volet de l'éducation. Et a été proposé le Festival du film d'éducation, ce qui nous a permis de voir des films venant de différents pays, des courts-métrages, et chacun avec une notion de l'éducation. C'était très large. On a eu des reportages, des documentaires, des films, des témoignages même. Globalement, c'était quand même une vision sur le monde.
Mais ça, c'est vrai que sur Évreux, on a encore la chance d'avoir ces propositions qui permettent de voir des choses différentes, c'est sûr. Je pense au Festival du film de l'éducation, je pense aux rencontres ciné-scènes également. C'est un moyen aussi de rencontrer, puisque dans ces festivals, c'est aussi des temps d'échange, de rencontres, des débats autour de sujets. D'autant plus pour le film de l'éducation qui a lieu, je crois, tous les mois de novembre. Et c'est la troisième édition, me semble-t-il.
C'était la sixième.
La sixième, oh là là.
Sixième voilà. Édition.
Le temps passe bientôt, beaucoup trop vite.
Alors justement, on continue sur le cinéma, Nathalie.
Oui, pour parler un peu des choses à voir en cinéma, le mois de décembre, choses intéressantes, alternatives, si vous en avez marre de Harry Potter, par exemple, ou que ce n'est pas vraiment votre tasse de thé, et que vous êtes plutôt cinéma indé, comme on dit, indépendant, je vous conseille une journée cinéma autour du réalisateur James Gray, qui est un jeune réalisateur new-yorkais, qui a été vraiment reconnu et salué avec son film Little Odessa en 95. Il avait 25 ans. Et James Gray est vraiment un auteur new-yorkais qui a grandi dans le Queens. Tout son cinéma parle beaucoup de cette ville, de New York. Little Odessa parle de ce quartier à proprement parler, du Queens, qui est le quartier russe de New York, avec une effervescence. C'est là, à cette époque, pendant son adolescence, où on pouvait sortir, boire des coups, où il y avait une réelle vie, une vie nocturne, une vie de gangster, de mafieux. Parce que quand on parle de New York, quand on parle de l'Amérique, et James Gray le dit lui-même, on peut pas parler de l'Amérique sans parler du système mafieux et des gangsters. Voilà, sans parler de la notion du crime. Et ces films traitent principalement de ces sujets, vraiment, de l'Amérique, de New York. Et du milieu un peu gangster, film noir, du coup, qu'il développe. Alors là, le principe de ces journées cinéma, c'est voir deux films du réalisateur. Et il y a un invité, un critique de cinéma, spécialiste du réalisateur, qui vient présenter évidemment le parcours, la filmo et le personnage, et aussi travailler autour de l'analyse filmique, à proprement parler, du cinéma de James Gray. En l'occurrence, la personne qui mènera cette journée, c'est Vincent Maloza, qui est un des chefs de file des cahiers du cinéma. Puisque quand même, on a une presse cinématographique en France, avec notamment les fameux cahiers du cinéma avec qui est partie la nouvelle vague en France. Après, on a Positif également, qui parle pas mal de cinéma, etc. Donc Vincent Maloza sera avec le public pour présenter James Gray, vous dire tout de A à Z sur ce réalisateur et on verra deux films.
Alors les deux films projetés sont La Nuit nous appartient. Et The Yard,
la nuit, exactement, La Nuit nous appartient et The Yard. Alors, La Nuit nous appartient, moi, ce que je voulais dire aussi sur donc James Gray, c'est un... Pourquoi je le raccroche aussi au théâtre, mine de rien, parce que c'est un réalisateur qui, avec ses comédiens, travaille vraiment l'esprit de troupe et de direction d'acteur sur ce principe-là. Notamment, enfin... il a fait sortir Joaquin Phoenix, maintenant, on va dire, une tête, une star du cinéma hollywoodien. Et ce qui fait que maintenant, c'est les stars hollywoodiennes qui l'interpellent. Donc, il est dans un entre-deux, entre faire un cinéma, son propre cinéma, faire avec maintenant aussi des stars. Mais il le revendique. Hein. Il dit, moi, j'aime les acteurs, ceux qui ont un charisme, une envergure, une dimension. Et c'est avec eux que je souhaite travailler. Après, il est pris dans vraiment l'entre-deux du cinéma américain. Quand on commence à être reconnu, on a un peu tous les majors qui vous font un appel du pied. Mais il faut garder son identité propre à l'intérieur de ça. Et... pour ça, on mettra en ligne sur l'émission sur le site de Principe Actif. Il y a une magnifique interview de James Gray qui a été faite par Télérama, qui est passionnante et qui raconte un peu tous ces rapports-là. Vous pourrez la lire et la télécharger sur le site. Donc oui, la nuit nous appartient, avec Joaquin Phoenix, qui nous parle de l'histoire de deux frères, un est gangster et l'autre policier. Et le fils gangster, eh bien, va devoir, après moult histoires, eh bien, se rattacher au groupe des policiers. Enfin voilà, faire deuil de ce qu'il aurait aimé être pour appartenir socialement au groupe où il appartient. Son père est policier, son frère est policier, son frère meurt et pour vraiment rejoindre la famille, il va rejoindre le corps policier. Donc c'est vraiment toute une histoire. Tragique, comique, sous une notion de film noir en même temps, extrêmement bien traité au niveau de l'image. Ça nous fait penser des fois à Scorsese, ça nous fait penser des fois à Visconti, aussi dans le traitement de l'image. Voilà, c'est assez passionnant, assez envoûtant pour le spectateur.
Et The Yard.
Et The Yard, que je connais un petit peu moins, mais qui traite sur là beaucoup plus sur le milieu des gangsters. Du coup, le rapport. Mais chez James Gray, il y a toujours du rapport aussi de la lutte des classes, vraiment. Et puis des relations père-fils. Voilà. Il vient d'une famille juive russe. À New York, où sa famille a débarqué à Coney Island parce qu'il était persécuté par les Russes blancs, il y avait les Russes rouges. Donc ils ont émigré et voilà, ils ont souffert de pogroms et de martyrs incroyables. Et donc c'était se rallier à la famille coûte que coûte. Donc il est très, très dans ce rapport-là. Voilà pour.
Donc à découvrir sur le premier volet.
Ce premier volet sur James Gray le samedi 11 décembre.
Parce que bien entendu, il y aura d'autres rendez-vous durant l'année au cinéma.
Exactement, on en reparlera.
On fait une pause musicale avec un titre choisi des Black Keys.
Oui, voilà, pour changer, et puis parce qu'on aime les Black Keys. I know you're on my mind.
I'm here to stay. Never gonna give up. No matter how you treat me, never gonna give up. So don't you think I'm leaving? Baby, don't you understand what you're doing to the man? Do you see? Somebody else. Never gonna give you up. No matter how you treat me. Never gonna give you up. So don't you think I'm leaving. Baby, don't you understand what you're doing to the man. They could.
Voilà, j'aime les contrastes, moi, de passer du Black Keys à l'oratorio de Noël de Bach. Voilà, j'avais envie de vous donner une petite touche musicale parce que Noël approche, n'est-ce pas ? Et nous sommes dans le mois. Et voilà, l'oratorio de Noël, c'est une autre façon de célébrer Noël. Et puis, c'est un concert qu'on pourra écouter dès demain également. Il sera donné au Théâtre du Grand Forum à Louviers par l'Orchestre de l'Opéra de Rouen. Et les chœurs, hein. C'est quand même 90 musiciens, personnes, plus choristes sur le plateau. Donc c'est d'envergure, comme on dit. Donc demain, samedi 4 décembre à 20h30, au Théâtre du Grand Forum à Louviers.
Ce qui nous emmenait très directement sur l'agenda.
Voilà, c'était ma petite transition sur l'agenda.
Eh bien, très bien. Nous avons parlé de Mignon Palace en début d'émission.
Oui, Mignon Palace, donc Gilles Defac, vous avez entendu, qui était notre invité de cette émission. Donc mercredi 8 décembre à 19h30 et jeudi 9 décembre à 20h30, donc toujours dans la programmation de la scène nationale Évreux-Louviers et au Théâtre du Grand Forum à Louviers.
Il y avait également les journées cinéma dont on avait parlé.
La journée cinéma consacrée à James Gray, réalisateur Little Odessa, The Yard, La Nuit nous appartient et plus récemment Two Lovers. Donc cette journée, le samedi 11 décembre à partir de 14h à Évreux au Ciné Pâté.
Et Et puis tu avais eu un coup de cœur quand tu préparais l'émission avec La Balle Rouge.
Oui, on vous a parlé du Cirque Théâtre d'Elbeuf. Et puis le Cirque Théâtre d'Elbeuf, dans sa programmation, présente La Balle Rouge, qui est un petit spectacle proposé pour les enfants, pour le jeune public, à l'approche de Noël. Je trouvais ça intéressant de vous communiquer cette proposition. Et c'est à partir de petits personnages en mousse. Une histoire vous est racontée. Donc là, vous pourrez le voir dès aujourd'hui, du 3 au 5 décembre, à Elbeuf, au Cirque Théâtre.
Et puis, en spectacle très vivant, ce soir sur les ondes de Principe Actif, vous pourrez vivre l'anniversaire des 2 ans de Fréquence FM, où vous aurez l'occasion de retrouver une très grande partie des animateurs qui font la radio durant la semaine, les week-ends d'ailleurs également. Donc le lien est tout fait avec le spectacle vivant, parce que ça va être un spectacle très vivant.
Très vivant.
Voilà.
Et une fête également. Bien, donc l'émission touche à son terme.
Alors, quelques informations, les liens aussi où on peut trouver de l'information.
Ah oui, tout à fait. Donc,
comme on prenait notre temps, je remontais un petit peu.
Oui. Mais c'est bien aussi d'entendre, de laisser la place aussi à Bach de temps en temps. Et oui, les liens avec le Théâtre du Prato, donc à Lille. Prato, www.leprato.fr, enfin de mémoire, je le dis, mais vous retrouverez les liens sur la page Scène de vie du site de Principe Actif. Également, il y aura une interview, donc je vous parlais de l'interview de James Gray, fait par un journaliste de Télérama. Vous pourrez lire, du coup, sur le site. Et puis, continuellement, le Cirque Théâtre d'Elbeuf, la scène nationale Évreux-Louviers, la programmation à venir.
Eh bien, on vous laisse en musique, en vous donnant rendez-vous le mois prochain, le 7 janvier.
Le 7 janvier, où là, je pense qu'on continuera un petit peu à parler de cinéma, puis voilà, il y aura des surprises également.
De toute façon.
Bonne journée, et puis n'oubliez pas
janvier.
Au 7 janvier. Mit zärtlichen Tränen.